Radio Mieux-Être. CJLV AM 1570.
Radio Mieux-Être vous présente l'émission Les électrons libres avec le docteur Luc Baudin.
Bonjour à tous. Bienvenue dans notre émission L'électron libre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que je trouve extraordinaire, l'épigénétique. L'épigénétique, ça nous explique comment on peut devenir les maîtres de notre gène, de nos gènes. Là, alors qu'actuellement, on était plutôt tributaire des gènes, tant qu'on l'enseignait, eh bien là, on apprend qu'on peut être les maîtres de nos gènes. C'est-à-dire, c'est qu'on va pas, l'épigénétique nous enseigne que notre mode de vie, notre mode de pensée, les vécus de notre vie vont influencer l'expression de nos gènes. C'est-à-dire, c'est qu'on ne va pas changer nos gènes, mais c'est qu'on va faire que on va ouvrir ou fermer nos gènes en fonction de notre mode de vie. Donc, on peut ouvrir des gènes qui nous sont favorables à notre santé, à notre vieillissement, etc. Ou au contraire, ouvrir des gènes qui sont favorables à des maladies ou à notre vieillissement. Donc, selon notre mode de vie, notre mode de pensée, eh bien, on va pouvoir ouvrir et fermer nos gènes. Donc je vais vous expliquer un petit peu de quoi il en retourne au cours de cette émission. Donc d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est nos gènes sont situés dans notre ADN. L'ADN qui se situe à l'intérieur de nos trois noyaux. Et rappelez, donc c'est un noyau qui est une cellule qui est microscopique, je vous le rappelle. Eh bien, tenez-vous bien. À l'intérieur de chacune de nos cellules, eh bien, nous avons 2 mètres d'ADN. 2 mètres d'ADN dans une si petite cellule. Et on avait même calculé que si on mettait bout à bout tous les ADN de toutes les cellules de notre corps, on pouvait faire plusieurs fois l'aller-retour de la Terre à la Lune. Impressionnant. Donc cet ADN contient toutes les informations pour le développement et le fonctionnement de notre organisme. Donc ADN, il est porteur des gènes. Or le mot gène, ça vient de génésis, qui donne naissance, qui engendre. Eh bien l'être humain n'a pas un nombre de gènes énorme, parce qu'il se situe entre 25 et 30 000. Donc c'est pas un nombre très important, parce qu'il y a des espèces animales qui en ont plus. Mais voilà, comme on dit toujours, c'est pas tout d'avoir des gènes, c'est qu'il faut bien savoir s'en servir, je dirais. Donc après ça, un gène, c'est une unité d'information donc qui est située sur une séquence d'ADN. Un gène est important parce que avec un gène va permettre la fabrication d'une protéine, et une protéine va permettre une action dans le corps. Donc il est évident que le gène va donc induire des actions plus ou moins favorables au niveau du corps. Ça permet à l'organisme de fonctionner, à l'organisme d'agir, de se développer selon les gènes. Donc les porteurs d'informations génétiques, et donc évidemment cet ADN va être celui qui va être transmis au moment avec l'hérédité. Donc une partie de la génétique, vous savez que la moitié des gènes viennent du père et la moitié des gènes viennent de notre mère, mais il y a aussi des possibilités de mutation, donc d'erreurs au niveau d'une réplication quand il y a des divisions cellulaires, ou alors des facteurs mutagènes comme les ultraviolets, la radioactivité ou le tabac qui peuvent provoquer à ce moment-là des mutations. Mais là, donc j'insiste surtout pour bien comprendre que l'épigénétique, les phénomènes épigénétiques ne sont pas des mutations. Ce qu'on ne va pas changer les gènes, c'est qu'on va par contre faire en sorte que les gènes vont s'ouvrir ou se fermer. Par contre, comme pour les mutations, ces gènes vont être hérédés, ces phénomènes épigénétiques vont être transmissibles à la descendance. Donc, l'ADN est fixe et non modifiable pour un individu. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on a 22 paires de chromosomes homologues et une paire de chromosomes sexuels, et donc l'hérédité dépendrait de l'activation et de l'inhibition de certains de ces gènes. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'épigénétique a été découverte au tout début des années 40, vers les années 1942, parce que par Conrad Waddington, j'ai toujours du mal en tant que français à dire des noms anglais, mais donc c'est un domaine qui va étudier l'environnement, l'influence de l'environnement et l'histoire individuelle sur l'expression des gènes. Donc j'insiste toujours que ce n'est pas une mutation. Donc ça va permettre l'ouverture ou la fermeture des gènes avec tous les intermédiaires possibles. Donc l'expression des gènes est en partie régulée par des éléments qui sont indépendants de l'ADN. Donc les modifications, ce seront des modifications des gènes sans changement de l'ADN. Et cette mutation, ces ouvertures et ces fermetures vont dépendre de la méthylation des groupes méthyl qui vont se fixer sur l'ADN. Donc je vous passe à détail parce que ça vous fera, c'est des choses qui sont trop compliquées et qui restent du domaine médical, mais sachez simplement qu'on ne change pas l'ADN et simplement ça change. Il faut bien comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, dans notre ADN, où nous avons à peu près, je vous ai dit, 20 à 30 000 gènes, et bien sur ces 20 à 30 000 gènes, il n'y en a que 30 à 35% qui vont être utilisés, 30 à 35% qui seront codants, donc qui vont être utilisés pour notre fonctionnement, pour faire ce que nous sommes. Par contre, 65 à 70% des gènes restent silencieux. Donc vous comprenez que même parmi ces 20 à 30 000 gènes, il y a déjà une grande part qui n'est pas utilisée. Et bien justement, avec l'épigénétique, on va pouvoir utiliser un certain nombre des gènes qui sont silencieux, de les rendre codants, et inversement, de faire que certains gènes codants peuvent redevenir silencieux. Donc comme je vous le disais, c'est des choses qui sont transmissibles. Alors, ok, le meilleur exemple que je peux vous donner au niveau épigénétique, pour que vous compreniez bien, et bien tout simplement, c'est l'exemple des abeilles. Eh bien, tout simplement, la reine des abeilles, elle est issue d'un œuf semblable à celle des autres abeilles, des abeilles travailleuses. L'œuf de la reine est exactement dans le même style. Et pourquoi elle devient reine et pourquoi elle ne devient pas travailleuse comme les autres ? Eh bien, tout simplement parce qu'à la reine, on va lui donner une alimentation spéciale, la fameuse gelée royale. Et donc cette gelée royale va lui faire transformer épigénétiquement, ça va lui ouvrir des gènes qui vont lui permettre de devenir reine, alors que les autres qui auront une alimentation commune, eh bien deviendront des travailleuses. Donc ça c'est le premier exemple d'épigénétique, c'est la reine des abeilles qui simplement, vous voyez, en changeant une alimentation, on change l'expression de certains gènes, elle va devenir la reine, alors que les autres resteront des travailleuses. Donc après ça, il y a d'autres, pour nous autres humains, il y a plein d'autres choses qui peuvent agir sur ces gènes. La première chose, c'est le stress, on le sait. L'environnement, on va en parler de tout ça, et surtout la pollution. L'alimentation, mais aussi les périodes de diète ou des périodes de disette vont aussi intervenir sur les épigénétiques. Et après ça, il y a le tabac, il y a les vécus personnels, et on a même vu que les fécondations in vitro posent des problèmes au niveau épigénétique, et ça, c'est vraiment très ennuyeux pour ce genre de thérapie. Alors, une des premières choses qu'on s'est aperçu, c'est par exemple le stress, les personnes qui étaient victimes de l'Holocauste pendant la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, le stress a été transmissible à leurs enfants. Donc ça, c'était une des premières choses. Et dans la même mesure, si vous voulez, on s'est aperçu que les événements du 11 septembre, qui ont entraîné la chute, la destruction des deux tours du World Trade Center, eh bien, ont influencé les bébés qui étaient dans le ventre de leur maman. Le stress que ça a généré chez la maman a activé certains gènes qui ont produit le stress chez les enfants. On s'est aperçu d'ailleurs que ces enfants avaient un taux de cortisol, pardon, une hormone du stress, un petit peu comme peut l'être l'adrénaline, qui était plus élevé que dans la population générale. Donc c'est vrai que c'est les femmes qui ont vécu difficilement cet événement du 11 septembre qui a choqué toute l'humanité entière, eh bien ce stress s'est transmis à l'enfant qu'elles avaient dans leur ventre, et ces enfants sont davantage stressés que la moyenne. Après ça, le tabagisme maternel modifie aussi l'ADN fœtal. On sait même que ça agit sur le gène AXL. Alors, on sait aussi que l'alimentation de la maman va provoquer, selon les cas, des maladies chez l'enfant qui vont se développer même à l'âge adulte, qui peuvent être tout simplement les problèmes de surpoids, les problèmes de diabète ou les problèmes d'hypertension. Donc vous voyez comment une alimentation, un changement alimentaire, ne serait-ce que dans le ventre de la maman, l'alimentation de la maman alors que le bébé est dans son ventre, va influencer l'enfant, mais même pas l'enfant à l'âge enfant, va provoquer des maladies à l'âge adulte de la personne. Donc c'est des choses qui sont responsables et qui vont demeurer chez la personne. On s'est aperçu aussi que les personnes qui avaient vécu des famines, on a vu ça surtout, on avait beaucoup étudié ça dans les populations nordiques, eh bien entraînaient chez les petits-enfants, pas chez les enfants, chez les petits-enfants, plus de diabète. Donc il y a eu beaucoup de choses comme ça qui ont été vues aussi, une famine. La famine dans les années 44-45, il y a eu une grosse famine qui a été retrouvée en Hollande juste au moment pendant la guerre. Eh bien, ça a entraîné des modifications génétiques chez les enfants. On a vu aussi que les femmes afro-américaines qui étaient descendantes d'esclaves avaient des bébés qui étaient de plus petite taille que les femmes qui étaient en Afrique. Donc tout ça, c'était transmissible. Vous voyez, les femmes aujourd'hui afro-américaines descendantes d'esclaves. Donc c'est vraiment des choses qui se transmettent de génération en génération. Donc nous avons beaucoup de choses, et c'est souvent les modes de vie des grands-parents qui vont influencer encore plus la vie des petits-enfants. C'est comme si ça sautait aussi de temps en temps une génération. Donc on a vu comme ça que la pollution, le tabac, l'alimentation, les famines, le stress modifiaient, des grands-parents modifiaient les espérances de vie chez les petits-enfants. Donc c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte, parce que ces éléments vont changer non seulement la santé des individus, mais aussi changer la santé des personnes, des enfants et des petits-enfants qui sont derrière. Eh bien, pour un autre exemple d'épigénétique par rapport à ça, il y a eu plusieurs expériences. Il y en a une expérience qui a été faite sur 600 personnes qui ont été suivies sur 10 ans. Eh bien, on s'est aperçu qu'on avait pris le génome de ces personnes, et on s'est aperçu que 10 ans plus tard, eh bien, il y avait un tiers de ces personnes, donc 200 personnes, avaient déjà des modifications génétiques par rapport à ce qui s'était passé 10 ans plus tôt. Ça veut dire que ce qu'ils avaient, leur mode de vie avait changé leur génome, alors favorablement ou défavorablement selon la qualité de leur vie, de leur vécu, mais simplement en l'espace de 10 ans, eh bien, il y avait des différences significatives. On avait fait aussi des expériences sur des jumeaux qui étaient séparés, qui vivaient des vies séparées dans des endroits différentes, avaient des professions différentes, avec bien sûr une vie familiale différente. Eh bien, on s'apercevait, alors qu'au départ ils avaient le même génome, les mêmes expressions génétiques, eh bien quelques années plus tard, on s'apercevait que là encore, des gènes étaient ouverts chez l'un et n'étaient fermés chez l'autre, et vice versa. Donc là, tout le mode de vie influence ces gènes favorablement ou défavorablement selon les cas. Donc la solitude aussi, les gens qui vivent une grande solitude, eh bien, ont des modifications des gènes. Il y a plus de 200 gènes qui sont modifiés, et ça a donc une action directement sur leur immunité. Donc voilà, donc on a vu aussi les pesticides. Les pesticides ont été beaucoup étudiés chez les animaux. On sait par exemple que les pesticides chez les humains favorisent la survenue des Parkinson, en particulier chez les agriculteurs. Mais chez l'animal, on a vu que les pesticides pouvaient induire des modifications génétiques transmissibles sur plusieurs générations, et qui étaient responsables chez l'animal justement de cancer de la peau et cancer de la prostate. Donc vous voyez que l'épigénétique a des répercussions importantes dans tous les secteurs. On a vu aussi que les facteurs environnementaux étaient responsables d'actions épigénétiques qui allaient induire des allergies et de l'asthme. Donc ça peut expliquer très bien pourquoi ces maladies sont en grand développement actuellement. C'est sûr, les allergies sont des facteurs qui sont hyper fréquents actuellement dans nos sociétés, et les asthmes sont très très liés avec les nanoparticules et des choses comme ça. Mais on ne savait pas que ça pouvait aussi modifier les gènes, et donc que ces facteurs-là risquent aussi d'induire ces pathologies dans les populations suivantes. Donc évidemment, l'épigénétique va se retrouver aussi dans la pollution automobile, et que ça va être responsable d'asthme. Tous les facteurs de drogue, que ce soit la cocaïne, la morphine, les amphétamines, modifient les gènes, modifient là encore l'expression des gènes. Et donc elles vont induire aussi un changement dans le circuit de la récompense, un peu comme le fait la dopamine. Et donc en modifiant le phénomène de récompense, eh bien ça favorise la dépendance à toutes ces drogues. Donc là encore, il n'y a pas que la dépendance, mais il y a aussi, c'est inscrit aussi au niveau génétique, et donc il va falloir justement, pour sortir de cette dépendance, aussi arriver à changer ces génétiques pour vraiment que les personnes puissent se passer de la cocaïne, de la morphine ou des amphétamines. Donc vous voyez, c'est que plein de choses peuvent intervenir. On pourrait continuer la liste à loisir, et sur les nanoparticules en particulier qui ont été étudiées chez la souris. On s'est aperçu que ça provoquait une atteinte de l'expression de gènes qui touchait le système nerveux central. Et donc ça pouvait favoriser l'autisme, ça pouvait favoriser l'épilepsie, ça pouvait favoriser la maladie d'Alzheimer, la schizophrénie, les troubles de l'apprentissage. Tout ça, c'est bien sûr chez la souris pour le moment, mais bon, est-ce que c'est extrapolable chez l'homme ? C'est probable, mais on n'en a pas la saturité. Donc vous voyez, tout ça, on peut se poser la question aussi sur la télévision, les champs électromagnétiques, le téléphone portable, le bruit, les conservateurs qu'on trouve dans notre alimentation. Donc tout ça, est-ce que c'est capable, même les OGM, est-ce que c'est capable de modifier nos gènes, l'expression de nos gènes ? La question est posée, on n'en a pas la preuve aujourd'hui, mais il y a des grands doutes là-dessus. On a même déposé des questions aussi, même sur nos médicaments. Est-ce que les médicaments ne sont pas aussi capables de changer l'expression des gènes ? Donc vous voyez, c'est que le sujet est vaste et en fait, ce que l'on sait, surtout mis à part la pollution, on sait aussi que je vous ai expliqué comment l'alimentation, les polluants, la famine, etc., le tabac, la drogue modifient nos gènes. Mais aussi, d'un autre côté, on sait que ces modifications épigénétiques sont responsables de maladies. Ça, nous en avons la preuve. Et là aussi, c'est l'autre facette. Donc, vous voyez, la modification par tous ces polluants, par tous ces modes de vie. D'un autre côté, eh bien, ces facteurs épigénétiques vont être responsables de cancer. On sait que ces modifications épigénétiques provoquent le cancer et provoquent des problèmes de surpoids, provoquent le diabète de type 2, donc le diabète de la cinquantaine, vous savez, le diabète qui est d'abord insulino-résistant. Donc, je vous ai dit aussi, ça favorise, on a la preuve aussi que ça favorise l'allergie, que ça favorise l'asthme, que ça favorise l'autisme, que ça favorise la schizophrénie, que ça favorise la maladie d'Alzheimer. Et la liste ne cesse de s'allonger de mois en mois, d'année en année. Donc l'épigénétique est responsable d'un grand nombre de maladies dites de civilisation. Pour moi d'ailleurs, l'épigénétique pourrait très bien expliquer ce qu'on appelle la psychogénéalogie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la psychogénéalogie. C'est-à-dire, la psychogénéalogie, c'est les problèmes que l'on va retrouver au sein d'une famille et qui vont se transmettre de génération en génération ou ça peut sauter quelques générations et on va retrouver ça chez les petits-enfants ou chez les arrière-petits-enfants. Et donc, pour vous donner un exemple, j'avais une jeune femme qui n'arrivait pas à trouver d'homme dans sa vie, mais elle désirait ardemment avoir un enfant. Donc, que ne trouvant pas d'homme pour partager sa vie, elle a décidé de trouver, entre guillemets, un géniteur. Elle a trouvé un homme avec qui elle a fait un enfant. Et elle ne l'a pas dit à cet homme. Elle a décidé de cet homme était là simplement pour un bref passage dans sa vie. C'était pas pour faire sa vie avec lui. Et donc, elle a fait cet enfant avec cet homme. L'homme est reparti. Donc, elle a élevé cet enfant toute seule. C'était un choix délibéré. Eh bien, son père a fait un travail au niveau de la généalogie, a remonté dans la généalogie, non pas pour cette histoire-là, mais par curiosité, pour rechercher un petit peu ses ancêtres. Et cette jeune femme s'appelait Marie. Eh bien, qu'est-ce qu'il s'est aperçu ? C'est qu'il y avait une arrière-grand-mère qui s'appelait Marie et qui était aussi une femme célibataire. Elle avait aussi un enfant alors qu'elle était célibataire. Et après ça, il est remonté encore un petit peu plus loin dans l'arbre généalogique et il s'est aperçu qu'il y avait une autre femme dans l'arbre. Je ne sais plus, elle s'appelait pas Marie, elle s'appelait peut-être Marie-Élisabeth ou Marie quelque chose, et elle aussi qui était fille-mère. Donc, si vous voulez, c'est qu'on peut imaginer qu'il y avait une mémoire dans cette famille, une mémoire qui était importante à effacer. Alors, bien sûr, on peut parler de travail psychologique. Mais là encore, est-ce que l'épigénétique n'entre pas là-dedans ? Est-ce que ce n'est pas justement la première qui a été fille-mère ? Est-ce qu'elle n'a pas modifié certains gènes, l'expression de certains gènes, qui à ce moment-là, se transmettant de génération en génération, a fait que la situation s'est reproduite quelques générations plus tard chez une autre Marie et encore quelques générations encore plus tard chez une autre ? Moi, je pense que l'épigénétique peut très bien expliquer tous ces phénomènes de psychogénéalogie. Alors, j'ai été très pessimiste jusqu'à présent. J'ai été très pessimiste parce que je vous ai montré comment l'épigénétique pouvait ouvrir des gènes et ouvrir des gènes qui étaient plutôt délétères. Eh bien, je vous ai gardé quand même le meilleur pour la fin. Ouf, c'est que bien sûr, la pollution, tout ça va vous offrir des gènes du cancer, de la maladie, etc. Mais il y a aussi l'épigénétique bénéfique. Rien n'est jamais obligatoire. C'est qu'on sait par contre que l'huile d'olive, par exemple, l'huile d'olive va avoir une action bénéfique sur les gènes, sur l'expression des gènes, et donc impliquée en particulier dans l'hétérosclérose, dans tout ce qui vient boucher les artères. Donc en prenant l'huile d'olive, on va modifier favorablement nos gènes et donc prévenir quelque part l'hétérosclérose. Après ça, on a une étude que j'ai trouvée magnifique, extraordinaire, c'est l'étude Géminal. L'étude Géminal a été faite sur 30 personnes volontaires qui étaient atteintes d'un cancer de la prostate. Ces 30 personnes ont refusé, pour des raisons que je ne connais pas, qui n'est pas donnée dans l'étude, ont refusé de suivre le traitement à traitement conventionnel. Par contre, elles ont accepté de rentrer dans un protocole. Ce protocole consistait en quoi ? Il consistait à changer leur alimentation. Donc, par exemple, ils avaient conseillé de ne pas prendre pas plus de 10% de lipides, de graisse, dans l'alimentation, plutôt de favoriser les aliments complets, les crudités. On leur demandait aussi de prendre des compléments alimentaires à base de soja, à base d'huile de poisson, à base de vitamine C, de vitamine E, de sélénium. On leur demandait de lutter contre le stress en faisant une heure par jour de yoga ou de stretching ou de relaxation. On leur demandait de faire aussi une demi-heure de marche par jour. On leur demandait enfin de faire partie d'un groupe de soutien, d'un groupe de parole une fois par semaine. Donc tous ces hommes ont accepté de suivre ce protocole. Eh bien, on fait des biopsies à ces hommes au tout départ, pour ce qui nous permet de faire le diagnostic du cancer. Et quand on a au sein d'une biopsie, il est très facile après ça d'étudier le génome. Eh bien, le génome a permis de voir les gènes qui étaient ouverts et les gènes qui étaient fermés. Et donc on a refait des biopsies à ces hommes 3 mois plus tard. Simplement, j'insiste sur la notion de simplement 3 mois plus tard. 3 mois plus tard, et bien tout simplement 3 mois plus tard, on a déjà vu qu'il y avait des modifications des gènes cancéreux. Et donc il y avait des gènes cancéreux qui commençaient à se fermer, alors qu'il y avait des gènes qui étaient bons pour la santé, bons pour leur équilibre, qui s'ouvraient. Et parallèlement à ça, on a vu aussi qu'il y avait une amélioration des PSA. Or, les PSA, c'est un marqueur du cancer de la prostate. Donc, évidemment, on s'est aperçu que, le marqueur de la prostate était déjà bien diminué avec simplement ce régime. Donc, ça veut dire que, là encore, on peut changer favorablement nos gènes. Donc, un mode de vie délétère va ouvrir des gènes qui seront néfastes et qui conduiront à la maladie. Un mode de vie sain va plutôt favoriser la disparition de ces gènes nocifs et ouvrir des gènes qui seront bons pour la santé. Donc là, c'est vraiment, l'épigénétique est aussi réversible. Ça aussi, c'est important. Donc, ce qui a été fait peut être défait. Donc, là encore, pensez toujours que l'ADN réagit aux émotions de l'autre. Donc, même si on est séparé, eh bien, les émotions changent. Et donc, les émotions vont changer notre ADN. Donc, c'est vrai. C'est pour ça que quand on est positif, quand on est aussi dans l'amour, quand on est aussi dans l'harmonie, eh bien, là, on sait que ces sentiments vont permettre de détendre l'ADN. Et donc, là encore, elles vont aussi très probablement ouvrir des gènes qui sont positifs. Et inversement, tout ce qui est peur, tout ce qui est stress, un peu comme tout ce qui est polluant et tout ce qui est mauvaise hygiène de vie, vont au contraire faire resserrer l'ADN. Et donc, très, très, très souvent, ça entraîne d'ailleurs des blocages de la croissance, ça entraîne des problèmes de développement intellectuel. Donc là encore, très certainement, des phénomènes de épigénétiques qui vont très défavorables par rapport à la personne. Donc vous voyez, c'est que on est maître de nos gènes. Ça, c'est très important. Et donc, rien n'est jamais écrit. Donc, pour ça que quand je voyais cette actrice américaine qui s'était fait opérer de ses deux seins parce qu'elle avait des gènes BRCA1 et BRCA2 qui étaient présents, ouverts chez elle, ça, je la comprends très, très bien parce que malheureusement, on sait qu'elle avait 70 à 80% de malchance de faire un cancer du sein dans sa vie. On comprend pas son geste. Mais aussi, avec l'épigénétique, on s'aperçoit que peut-être, je dis bien le peut-être parce qu'on n'en a pas la preuve, mais pour moi j'en ai l'intime conviction, mais je n'en ai pas la preuve et donc je mesure mes paroles, que si elle a son mode de vie, un mode de vie sain, un mode de pensée saine, eh bien simplement aurait pu peut-être fermer ces gènes BRCA1, BRCA2 et faire justement que la maladie ne passera pas par elle et que ce cancer n'aurait pas été touché par le cancer. Donc je comprends son geste, je comprends pourquoi elle l'a fait, mais l'épigénétique, vous comprenez qu'il serait très nécessaire de, le développer. Et donc la conscience, quand on ouvre sa conscience, quand on ouvre notre niveau de réalité, quand on change notre mode de vie, eh bien d'un seul coup, on est capable de réécrire nos gènes. Donc on peut être les maîtres de notre destin, les maîtres de notre vie. Et là encore, qu'est-ce qu'on peut faire pour cela ? Eh bien, tout simplement, le mieux est d'avoir une mode de vie sain. Et donc, un mode de vie sain, dans quoi va-t-il consister ? Le mode de vie sain, tout va consister tout simplement en suivant une alimentation de type méditerranéenne, donc qui va être plutôt riche en crudités, en légumes, crus ou faiblement cuits. Enfin, plutôt favoriser les huiles d'olive, les huiles de colza, les huiles de tournesol. Pas manger beaucoup de laitage, plutôt favoriser les fromages de brebis. Aussi, à côté de cette alimentation, prendre une alimentation, mais toujours dans un milieu calme, dans un milieu détendant, où on peut simplement se bien mastiquer, bien manger. Après ça, les aliments qui sont importants, c'est d'avoir une petite activité physique. Cette activité physique qui, on considère actuellement qu'il y a 3 heures d'exercice physique par semaine. Et c'est déjà suffisant pour changer les choses. Donc 3 heures, ça fait une demi-heure à peu près tous les jours. C'est pas beaucoup. Hein. Il suffit de faire une marche rapide, faire un petit peu de gymnastique, faire un petit peu de jogging. Donc et là aussi, la bonne oxygénation, une bonne oxygénation va permettre aussi une bonne santé. Donc ça, c'est sur le plan physique. Sur le plan, je dirais psychologique. Vous avez vu ce que j'ai dit avec l'étude géminale. Ça consiste à faire aussi un groupe de parole, donc déjà d'exprimer, même sans faire partie d'un groupe, c'est simplement d'exprimer ses émotions, d'exprimer ses sentiments, d'exprimer ses choses. Travailler sur le yoga, où moi j'adore, c'est la méditation, qui est vraiment quelque chose de très facile à faire. On peut la faire n'importe où, n'importe quand. On n'a pas besoin de se mettre dans des positions scabreuses. On peut la faire d'une manière très simple dans son fauteuil, dans le métro. On peut la faire n'importe où. Et simplement, cette concentration, cette détente va apporter beaucoup de calme au niveau de votre corps et de votre tête, parce que ça permet d'arrêter ce mental. Et en arrêtant le mental, eh bien, d'un seul coup, on voit vraiment l'essentiel. Et donc, la méditation est aussi une arme, pardon, j'enlève le mot arme que je n'aime pas, c'est un outil, parce que l'arme, on n'est pas dans la guerre, justement, la santé n'est pas une guerre, c'est quelque chose, ce sont des outils qui nous emmènent vers une belle évolution. Donc là, La méditation permet de le faire, mais d'autres pourront préférer, par exemple, le yoga ou les phénomènes de stretching et choses comme ça. Mais les contacts avec la nature sont également des éléments importants. Et tous les développements des activités artistiques, là aussi, les artistiques, ça peut être aussi bien en se faisant une belle recette de cuisine, ça peut être en faisant de la peinture, en faisant de la musique, en faisant son jardin. Il y a beaucoup de... En faisant de la couture, il y a 1000 façons de faire de l'art. Il y a l'art sous toutes ses formes, mais quand on fait de l'art, on s'exprime. Et là aussi, on apporte du bien-être, on apporte de l'équilibre à l'intérieur de soi. Et donc tout ça, que ce soit un mode de vie, que ce soit un mode de pensée sain, ça va évidemment permettre aux gènes, aux gènes qui sont des gènes de la bonne santé, s'ouvrir. Et là aussi, ça peut aussi ouvrir les gènes de la longévité également. Donc s'il y avait des gènes qui étaient délétères, ça peut les fermer. Et si c'était des gènes de bonne santé, pourront s'ouvrir. Donc là, rappelez-vous, nous sommes les maîtres de notre santé, les maîtres de nos gènes. Et vraiment, les éléments épigénétiques vont vraiment être un traitement de demain. Parce que là encore, on est en train de donner plein de conseils au niveau des soins, mais là encore, on va voir que ça a une influence sur les gènes, et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Donc ça, c'est vraiment une thérapie de demain. Et donc vraiment, nous avons aussi, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que rien n'est jamais écrit. Donc vous voyez, les gènes, même des gènes délétères, on est capable de les modifier, et donc la vie, votre vie, est entre vos mains. Et vous êtes les seuls maîtres de votre destin. Rien n'est jamais écrit. Tout est en votre main. Voilà, je voulais surtout vous parler de l'épigénétique pour vous donner cette grande bouffée d'espoir. Et c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire. Et n'oubliez pas aussi que de me retrouver, si vous le voulez bien, sur mon site internet qui s'appelle luc-baudin.com. Et venez sur mon site où vous trouverez plein d'informations. À bientôt.
L'émission Électron Libre vous est présentée tous les mercredis dès 10h et en rediffusion à 20h.